Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Radio Orient, Souada Kermani. Un avion de ligne à destination du Royaume-Uni s'est écrasé aujourd'hui en Inde avec 242 personnes à bord. Il n'y a pas de survivants, explication dans quelques minutes. Ce sera mardi prochain à New York une conférence internationale coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite. Au cœur de cette réunion, la solution à deux États, israéliens et palestiniens. Nous y reviendrons dans votre magazine avec la vice-présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, la députée Éléonore Carroix. L'Iran annonce une augmentation de la production d'uranium, une annonce avant les négociations dimanche entre Washington et Téhéran. Voici l'essentiel de l'actualité, cette annonce de Téhéran. Le régime iranien affirme qu'il va construire un nouveau site d'enrichissement d'uranium. Cela après l'adoption par l'Agence internationale de l'énergie atomique d'une résolution le condamnant pour non-respect de ses obligations nucléaires. L'Union européenne appelle Téhéran à faire preuve de retenue. De son côté, la République islamique met en garde Israël et les États-Unis en cas d'attaque. En Syrie, deux jours après un décret imposant le port du burkini ou de maillots couvrants sur les plages publiques, le ministère du Tourisme affirme avoir été mal compris. Le ministère assure ne pas interdire les tenues de plage occidentales, selon L'Orient le Jour. Les États-Unis ont mis en garde les pays contre leur participation à une conférence de l'ONU prévue la semaine prochaine à New York. Une réunion coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite qui portera sur une solution à deux États, entre Israël et les Palestiniens. Washington menace de conséquences diplomatiques, ce qui prendrait des mesures anti-israéliennes après cette réunion internationale. Un nouvel échange de prisonniers de guerre entre Kiev et Moscou a eu lieu ce jour sans que le nombre de personnes concernées ne soit communiqué. Le rapatriement des dépouilles et les échanges de prisonniers de guerre demeurent l'un des rares terrains de coopération entre les deux parties. Los Angeles reste en proie aux émeutes malgré les appels à l'ordre lancés par Donald Trump. Les manifestations continuent de s'étendre à travers les États-Unis. Des rassemblements dénonçant la politique migratoire du président ont eu lieu dans plusieurs grandes villes, notamment à New York, Indianapolis et Denver. La ville de Spokane, dans l'État de Washington, a également imposé un couvre-feu cette nuit. Et en Irlande du Nord, à Ballymena, une troisième soirée de violence anti-immigrés. 9 policiers ont été blessés et 6 personnes arrêtées, dont 3 adolescents, une annonce ce jeudi de la police. Les émeutes ont été déclenchées par l'inculpation de 2 adolescents pour une tentative de viol d'une jeune fille. Et au Mali, le général Assimi Goïta pourrait rester président sans limite de durée. Un projet de loi adopté hier au Conseil des ministres qui prévoit de donner au général un mandat présidentiel sans durée définie. Déjà à la tête de la transition, il resterait au pouvoir pour au moins 5 années de plus. En France, le gouvernement a présenté un plan pour mieux repérer et soigner les troubles psychiques. Il prévoit plus de formation pour les adultes et les soignants, mais aussi une offre de soins plus claire. Ce plan arrive alors que 2025 est l'année de la santé mentale. Vous êtes à l'écoute de Radio Orient et place à présent à notre tour d'horizon de l'information. Un drame est survenu aujourd'hui en Inde. Un avion de ligne reliant la ville d'Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde, vers Londres, s'est écrasé après son décollage. À bord, 242 personnes, dont une majorité d'Indiens et de Britanniques. Le drame, survenu dans une zone résidentielle, n'a laissé aucun survivant. Les explications d'Arthur Claude Savoie.
Le vol AI-171 est un long courrier d'Air India à destination de l'aéroport de Gatwick à Londres. L'avion s'est abîmé au sol peu après avoir quitté la piste d'Ahmedabad à 13h39, heure locale. Selon les autorités indiennes, l'avion a lancé un appel d'urgence connu sous le nom de Mayday avant de disparaître des radars. L'appareil s'est écrasé dans un quartier peuplé de la ville, provoquant une scène de chaos et des pertes humaines au sol encore en cours d'évaluation. Ce qui est le plus frappant, c'est le bilan. Aucun survivant. Les 242 personnes à bord, dont 2 pilotes, 10 membres de l'équipage et 230 passagers, ont péri. Parmi eux figuraient 169 citadins indiens, 53 britanniques, 7 portugais et 1 canadien. Le ministère indien de l'aviation civile a immédiatement déclenché les secours et suspendu le trafic à l'aéroport. Les réactions politiques n'ont pas tardé. Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié l'accident d'épreuve déchirante et a promis une aide complète aux familles des victimes. Son homologue britannique Keir Starmer s'est dit profondément attristé, tout comme le chef de la diplomatie britannique David Lammy, qui a annoncé une collaboration avec les autorités indiennes. Le Premier ministre portugais a également exprimé sa solidarité après la perte de ses ressortissants. Le constructeur Boeing, déjà fragilisé par plusieurs scandales de sécurité, a réagi indiquant suivre l'évolution de la situation de près et collaborer avec les autorités. Alors que les familles attendent des réponses, une enquête technique a été ouverte pour déterminer les causes précises du drame. En Inde comme à l'étranger, le choc est immense.
Elle débutera mardi prochain la conférence internationale co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite pour relancer une solution pacifique dite à deux États, israélien et palestinien. Elle se déroulera du 17 au 20 juin au siège des Nations Unies à New York. Extrait de l'émission Pluriel avec Éléonore Carrois, députée Renaissance des Français établie à l'étranger et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Elle nous fait part de son regard sur la situation catastrophique à Gaza et des enjeux de cette conférence.
La situation est tragique et elle s'empire de jour en jour. Moi, je salue la tenue de cette conférence et j'espère qu'elle pourra nous permettre d'arriver à une amélioration de la situation. La situation est désespérante. Cela fait des mois maintenant que des femmes, des enfants, des hommes souffrent, n'ont pas à manger et il est temps que tout cela s'arrête. Et donc, j'attends avec impatience la reconnaissance de l'État de Palestine, mais j'attends également le cessez-le-feu, la possibilité d'acheminer l'aide humanitaire et surtout l'arrivée à une solution politique.
On s'en souvient, en avril dernier, le président français n'avait pas exclu de reconnaître un État palestinien lors de cette conférence de New York. Est-ce que cela serait, d'après vous, le bon moment? La France a toujours dit attendre le bon moment pour reconnaître l'État palestinien.
Je comprends qu'il faille trouver le bon moment parce qu'il faut avoir des interlocuteurs et des institutions avec qui parler. Il est évident que cela ne peut pas être avec le Hamas, qui est une organisation terroriste et qui d'ailleurs doit libérer les otages israéliens et est responsable du massacre du 7 octobre. Donc évidemment que l'on ne pouvait pas tout à coup reconnaître l'État de Palestine si l'interlocuteur était uniquement le Hamas. Aujourd'hui, les choses semblent bouger. L'autorité palestinienne a adressé, le président de l'autorité palestinienne a adressé à Emmanuel Macron une lettre qui, à mon sens, est porteuse d'espoir. Il y a d'autres acteurs qui sont clés dans la région, qui peuvent prendre le leadership et qui d'ailleurs dénoncent les actes du Hamas. Donc il me semble que les choses bougent, que les choses évoluent et il faut évidemment, comme je disais, qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat et que on cesse toutes ces souffrances dans la bande de Gaza, mais également que les otages soient libérés.
Et dans cette lettre que vous évoquiez, Mahmoud Abbas s'est dit favorable à ce que le Hamas dépose ses armes et ne dirige plus Gaza. Cela dans le cadre d'un futur État palestinien. Alors concrètement, une telle reconnaissance par la France d'un État palestinien, cela changerait quoi dans ce conflit?
Je pense que c'est important que ça intervienne dans un cadre multilatéral. C'est-à-dire que certains pays européens avaient reconnu l'État de Palestine, par exemple l'Espagne, d'autres pays l'avaient fait également il y a quelques mois. Cela n'avait eu strictement aucune conséquence. C'est-à-dire que la situation était restée tout aussi dramatique, tout aussi tragique et à part saluer cette décision, cela n'avait eu aucun effet. Aujourd'hui, une reconnaissance de la France, si elle a lieu, elle se ferait dans le cadre d'une conférence multilatérale co-présidée avec l'Arabie Saoudite qui embarquerait aussi un certain nombre d'États de la région et donc je pense qu'elle aurait beaucoup plus de poids et d'ailleurs c'est une reconnaissance qui est conditionnée à ce qu'il y ait des conditions qui permettent d'accéder à la paix et de trouver cette solution politique. Donc je pense que déjà cette lettre de Mahmoud Abbas et cette volonté d'exclure complètement l'organisation terroriste qu'est le Hamas me semble être une évidence, mais me semble être aussi un préalable nécessaire à la reconnaissance de l'État palestinien.
C'était Éléonore Carrois, députée Renaissance des Français établie à l'étranger et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Elle est l'invitée de votre émission Plurielle. Et une nouvelle série de discussions sur le nucléaire aura lieu dimanche entre les États-Unis et l'Iran. Ce sera à Mascate, une annonce du médiateur omanais. Les explications de François-Xavier Tecalonne.
Oui, cette annonce intervient en pleine tension entre les deux pays ennemis depuis plus de 4 décennies. Une annonce quelques heures après que Donald Trump a confirmé le déplacement de membres du personnel américain au Moyen-Orient dans les jours à venir, parce que cela pourrait être un endroit dangereux, selon les mots du président des États-Unis. Téhéran a menacé ce mercredi de frapper les bases militaires américaines dans la région en cas de conflit consécutif à un échec des négociations avec Washington sur son programme nucléaire. Ce matin, le ministre Romanet des Affaires étrangères, dont le pays accueille ces discussions, s'est dit heureux de confirmer que le 6e cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis se tiendra à Mascate dimanche 15 juin. Des propos sur le réseau X. L'Iran et les États-Unis tentent depuis avril de s'entendre sur un potentiel texte qui empêcherait l'Iran de se doter de l'arme atomique. Téhéran se défend de nourrir cette ambition. Un accord entre les deux pays permettrait une levée des sanctions qui paralysent l'économie iranienne. Les discussions butent notamment sur la question de l'enrichissement d'uranium. Les États-Unis exigent que l'Iran y renonce totalement, ce que Téhéran refuse. L'Iran affirme en avoir le droit en vertu du traité de non-prolifération nucléaire, un traité dont Téhéran est signataire.
Le choc reste immense à Nogent, en Haute-Marne, après le meurtre d'une surveillante de collège. L'établissement a rouvert ses portes ce matin, un retour difficile pour les élèves, alors que l'auteur présumé, un collégien de 14 ans, est présenté ce jeudi à un juge d'instruction. On écoute Nadia Bencher.
C'est dans un silence pesant que les premiers élèves sont arrivés à 8 heures, encadrés par des adultes et sous la surveillance des gendarmes. Très peu ont franchi le portail, une cellule psychologique est en place et ce midi, une minute de silence a été observée dans tous les établissements scolaires de France. La victime, Mélanie, 31 ans, était surveillante. Mardi, elle a été poignardée à l'intérieur même du collège. Selon le procureur, l'adolescent mis en cause a déclaré vouloir tuer une surveillante, n'importe laquelle. Un profil décrit comme fasciné par la violence et en perte de repère, sans trouble mental apparent selon le magistrat. L'enquête est ouverte pour meurtre aggravé et tentative de meurtre sur dépositaire de l'autorité publique. Le jeune suspect est actuellement à Dijon pour être présenté à un juge. La préméditation évoquée par le parquet pourrait faire évoluer les charges vers un assassinat. Une marche blanche est prévu ce vendredi à 18h au départ du collège en hommage à la victime.
La Jeune Garde, un mouvement antifasciste de gauche radicale, et Lyon Populaire, un groupuscule d'ultra-droite, ont été dissous. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, désormais également président de LR, justifie cette décision par des provocations à la violence et des agissements incitant à la haine. Les précisions avec Arthur-Claude Savoie.
La Jeune Garde, fondée par Raphaël Arnaud, aujourd'hui député LFI, est accusée par les autorités d'avoir participé à plusieurs affrontements violents. Lyon Populaire, de son côté, est reproché d'avoir tenu des propos antisémites et racistes, mais aussi de faire l'apologie du nazisme. Ce sont deux groupes que l'État considère désormais comme des menaces pour l'ordre public. Une décision qui ne passe pas inaperçue, Raphaël Arnaud a rapidement réagi sur les réseaux sociaux. Il dénonce une dissolution politique menée selon lui à la demande directe du Rassemblement national. Le député LFI a annoncé un recours devant le Conseil d'État. Dans un communiqué, la Jeune Garde accuse le gouvernement de banaliser les discours racistes et s'attaque à ceux qui les combattent. Quant au collectif Urgence Palestine, également visé par une procédure de dissolution depuis mai, son cas n'a finalement pas été tranché ce jeudi. Le gouvernement explique que le dossier est toujours en cours d'examen. Cette annonce avait déjà provoqué des protestations dans plusieurs villes et suscité l'inquiétude d'ONG comme Amnesty International. Cette série de dissolutions interroge sur la question du débat public. À l'heure où la tension monte autour de certaines expressions politiques radicales, le ministère de l'Intérieur, lui, affirme vouloir l'autorité républicaine face à toute forme de violence, quelle que soit l'orientation politique.
C'était le tour d'horizon de l'actualité sur Radio Orient. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui encore et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.